Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Le président algérien a entamé une visite d'État de 2 jours en Tunisie, l'occasion selon la présidence tunisienne de renforcer les liens de fraternité historique qui unissent les deux pays. Le discours du président tunisien lundi soir suscite de vives réactions dans la classe politique. Des manifestations sont prévues vendredi. Notre invité sera Fev Daoud, la présidente du Conseil national du parti État-Catholique. Après le discours de Kais Saied, les États-Unis ont salué l'annonce d'un nouveau scrutin législatif pour décembre 2022 en Tunisie. Le président du Conseil français du culte musulman fait part de sa surprise après les dernières déclarations du ministre de l'Intérieur sur le CFCM. Mohamed Moussaoui souhaite être reçu par le chef de l'État. Il sera l'un de nos invités. Un livre intitulé « Beyrouth » aux éditions 37.2, publié par le photographe Maxime Maignan. Il s'est rendu 2 fois dans la capitale libanaise après la révolution d'octobre 2019, puis après l'explosion au port le 4 août 2020. Vous l'entendrez. Les demi-finales de la Coupe arabe des Nations ce mercredi de face à face, Tunisie, Égypte et Algérie, Qatar. Les quarts de finale du mondial féminin de handball, les Bleus affrontent la Suède ce mercredi soir à 20h30. Le discours du président tunisien lundi soir dernier suscite de vives réactions dans la classe politique tunisienne. Le Parlement restera suspendu jusqu'à de nouvelles élections législatives organisées à la fin de l'année prochaine. Des amendements constitutionnels seront soumis à référendum le 25 juillet. Entretien avec Afef Daoud, la présidente du Conseil national du parti État-Catholique.
On s'attendait, et on l'a déjà dit avant, que le président allait changer la constitution, qu'il allait confirmer sa volonté de gouverner tout seul, de détruire les institutions et de continuer sur un chemin qu'il a commencé depuis le 25 juillet. Donc finalement, le discours sur la forme et sur le fond était attendu. Sur la forme, c'est un discours qui est violent dans un moment où la Tunisie a besoin d'union pour construire, surtout dans cette crise qu'on vit économique et sociale. Sur le fond, en fait, il s'arroge le droit de changer la constitution. Il annonce un référendum, mais en disant que les délais de finir les travaux, même pas 25 jours avant ce fameux référendum, et surtout en n'ayant aucune visibilité sur qui va travailler sur ces sujets, sur quoi le référendum va avoir lieu, qui va travailler avec lui. Donc, littéralement, on est dans l'ère de la pensée unique, de la décision unique et de l'homme seul au pouvoir qui parle à lui-même et qui s'arroge la parole du peuple.
Et le fait que les Tunisiens soient consultés sur la future constitution, est-ce un élément que vous saluez ?
Absolument pas, parce que vous savez, lors de la dictature, il y a eu des nombreuses soi-disant consultations. Comment peut-on consulter sur une constitution ? La constitution est un contrat social grand qui a plusieurs volets, et des volets techniques et des volets sociaux, etc. La constitution tunisienne en soi, ce qui le dérange probablement, c'est le système présidentiel ou parlementaire, en sachant qu'il n'est même pas dans une vision d'un système présidentiel, mais d'un système de vote, parce que le système présidentiel, c'est un système où le Parlement est fort. Donc, principalement, comment aller, après 7 ans, retravailler sur une constitution qui a pris 2 ans d'écriture ou qui a eu l'accord de la majorité du Parlement. Donc, consulter les Tunisiens, c'est vraiment ceci de la poudre aux yeux. Deuxièmement, une consultation électronique dans un pays où il y a une grande partie qui n'ont pas accès à ce type de moyens et où une consultation qui est très technique, il va demander aux gens de donner leur avis sur la technicité des droits et des lois. Et ceci est clairement, probablement un message qui est plus orienté à l'étranger que pour les Tunisiens, réellement. Voilà la belle poudre aux yeux, vous avez une date et vous avez une consultation générale sur la Constitution. Rappelez-vous, en fait, les référendums qui ont eu en Europe, le référendum doit être clair, la question doit être claire, pas sur une totalité de constitution. Et puis, on doit avoir le temps pour avoir le pour et le contre et ceux qui défendent les différentes thèses, mais il faut tout d'abord savoir quelles sont les thèses qu'on défend.
La Tunisie était dans l'incertitude jusqu'à ce lundi soir et le discours du président tunisien. Aujourd'hui, estimez-vous que les éléments sont clarifiés ?
Annoncer une date d'élection, je vais prendre cet exemple-là, de l'élection législative, sans annoncer des élections présidentielles, tout en disant qu'il change la constitution, sachant qu'il a été élu sur la base de cette constitution. Donc en fait, dans le droit, il doit lui-même aussi aller aux élections présidentielles. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, en fait, les élections sont faites, on ne sait pas qui va diriger ces élections, qui va veiller à ce que les élections soient des élections honnêtes, transparentes, etc. Sachant qu'il ne croit pas aux institutions de contrôle, il l'a dit avant. Donc est-ce que c'est lui, est-ce que c'est son gouvernement qui l'a nommé sans prérogatif, est-ce que c'est le ministère des Affaires intérieures qui va contrôler ces élections, ceci n'est pas clair. Donc c'est absolument pas rassurant. C'est pour ça qu'on dit que c'est un message qui a été lancé plus à l'étranger qu'à l'intérieur, mais les forces politiques, les forces de l'opposition et les partis et aussi une grande partie de la population n'a aucune visibilité réellement sur ce qu'il va faire, comment ça va être fait, ni sur quelles règles.
Alors face à ces mesures, on l'entend que vous déplorez. Quel type d'action envisagez-vous aujourd'hui ?
Le 17, on sort dans la rue. On a fait un grand appel à la population de sortir dans la rue pour commémorer la révolution. C'est le lancement de la révolution a été le 17 décembre, mais aussi pour signifier clairement notre refus à une ère de dictature qui revient clairement. Et puis, on travaillera avec les différents organismes, l'UGTT, autres, pour construire une réponse réfléchie, calme et sereine pour un avenir meilleur pour les Tunisiens.
On l'entend, vous appelez à un vaste mouvement vendredi prochain, le jour de la célébration du 11e anniversaire de la révolte contre le régime de Zine El Abidine Ben Ali.
Tout à fait. Pour nous, la révolution a commencé le 17 et c'est une date importante et a duré jusqu'au 14. Et ça aussi, je vous donne un peu l'image du président qui est en train de changer la date de la révolution à son début, alors que en fait, les révolutions, quand on gagne et on a bien en fait, l'ancien président a quitté le pays le 14 février. Donc oui, on appelle tout le monde à être dans la rue le 17 décembre.
Afef Daoud, présidente du Conseil national du parti Etakatol. Les États-Unis ont salué hier l'annonce du président tunisien d'un nouveau scrutin législatif pour décembre 2022. Nous espérons un processus de réforme qui sera transparent et inclusif de la diversité des voix politiques et de la société civile. Voilà ce qu'indique le porte-parole du département d'État américain. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune effectue une visite d'État de 2 jours en Tunisie depuis ce mercredi. La présidence tunisienne affirme que cette visite constitue une opportunité pour consolider les relations de coopération et de partenariat établies entre les deux pays. En 2 ans d'exercice, il s'agit de la 2e visite d'État d'Abdelmadjid Tebboune à l'étranger. Le président algérien s'est rendu le 20 janvier 2020 en Allemagne où il a participé à la conférence de Berlin sur la Libye. Puis il a effectué une visite d'État en Arabie Saoudite 1 mois plus tard. Le 42e sommet du Conseil de coopération du Golfe, hier dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite, dans un communiqué final, les pays du Conseil ont convenu de l'importance de se coordonner pour parvenir à une politique étrangère unifiée et efficace qui protège les intérêts des peuples du Golfe. Le président du Conseil français du culte musulman demande au micro de Radio Orient à être reçu par le chef de l'État français. Mohamed Moussaoui fait part de sa surprise après les dernières déclarations du ministre de l'Intérieur en charge des relations avec les cultes. Gérald Darmanin a annoncé la mort du Conseil français du culte musulman qu'il qualifie de représentation de l'islam consulaire, déplore Mohamed Moussaoui, le président du CFCM.
Monsieur le ministre a été interrogé sur l'assimilation du culte musulman en lien avec les propos d'Éric Zemmour. Et en se lançant donc dans sa réponse, il a annoncé quelque chose de très surprenant. Il parle ni plus ni moins de la mort du Conseil français du culte musulman, qui qualifie d'ailleurs de représentation de l'islam consulaire. Bien sûr, cette déclaration elle n'est pas acceptable ni sur le fond ni sur la forme. Il faut rappeler que le Conseil français du culte musulman a été créé par la volonté des musulmans de France et des pouvoirs publics comme instance représentative du culte musulman qui ferait l'interface entre les gestionnaires de culte et les pouvoirs publics. L'État laïque dialogue avec les cultes À ce titre, le Conseil français du culte musulman a été mis en place pour pouvoir dialoguer avec les pouvoirs publics dans le respect du principe de la laïcité. L'annonce faite donc par le ministre de l'Intérieur a une annonce pratiquement unilatérale dans la mesure où le CEPS n'a pas été informé, en disant clairement que les pouvoirs publics, en tout cas Beauvau, a interrompu tout contact avec le Conseil français des cultes musulmans. Et au passage, en parlant donc de la signature de la charte pour les principes de l'islam de France, en tout cas dans son expression, laissait entendre que le président du CFSM que je suis n'a pas signé la charte, alors que c'est moi-même qui a été coordinateur de la rédaction et le premier signataire de cette charte.
Vous entendez rester un interlocuteur des pouvoirs publics sur les questions cultuelles?
Tout à fait. Je pense que le président de la République, lors de son discours du 2 octobre, avait chargé le Conseil français du culte musulman de mettre en place un conseil national pour les imams. Nous y avons travaillé pendant une année. Des choses ont été faites, dont notamment la charte pour l'islam de France, mais aussi tous les documents fondateurs de Conseil national des imams. Et nous continuons effectivement à jouer ce rôle, puisque les accords cadres qui régissent les rapports entre l'État, entre les pouvoirs publics et le culte musulman, qui datent de 2000, janvier 2000, restent en vigueur jusqu'à une rupture officielle par l'État.
Demandez-vous aujourd'hui une audience au ministre de l'Intérieur en charge des relations avec les cultes pour faire le point avec lui et notamment sur la situation du Conseil français du culte musulman et la manière dont il est perçu par l'État?
Oui, nous demandons évidemment cette audience. En tout cas, je pense que le moment est grave et il faudrait effectivement que nous puissions en parler. Je demande également audience au président de la République, puisque c'est le président de la République qui a dit faire confiance au Conseil français du culte musulman pour la création du Conseil national des imams et pour une refondation de l'organisation du culte musulman. Cette confiance qu'a fait le président public au Conseil français du culte musulman, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas été encore retiré.
Le président du Conseil français du culte musulman, Mohamed Moussaoui. Le photographe Maxime Ménian publie un livre intitulé Beyrouth aux éditions 37.2. Il s'est rendu dans la capitale libanaise deux fois, après la révolution d'octobre 2019, puis après l'explosion au port de Beyrouth le 4 août 2020. Maxime Ménian.
La première fois, c'était en janvier 2020, où j'y suis allé pour 10 jours, vraiment pour découvrir la ville. Et en octobre 2020, j'y suis retourné justement parce que j'avais suivi ce qui s'était passé au mois d'août. Et étant très attaché personnellement à la ville, j'ai absolument voulu partir pour documenter la ville et disons ses habitants 2 mois après la double explosion du 4 août.
Qu'est-ce qui vous attache justement à cette ville de Beyrouth?
Alors en fait, moi, c'est des amis, une ancienne relation par laquelle j'ai pu connaître cette ville. Et après, je suis complètement tombé amoureux de la ville, tant en termes d'architecture, en termes de vie culturelle, tout ce qui va s'apparenter aussi à la culture alimentaire, tout ce qui va être aussi la nightlife à Beyrouth, des paysages magnifiques. Et honnêtement, j'ai rencontré un peuple très très accueillant, et c'est pour tout cela que je suis tombé amoureux de cette ville.
Et donc, vous êtes allé à Beyrouth à deux moments différents. La ville était très différente quand vous y êtes retourné 2 mois après l'explosion?
Complètement. La première fois que j'y suis allé, c'était quelques mois après le début des manifestations qui avaient débuté en octobre 2019. Donc, ça s'appelait la Saoura, la révolution. Donc, il y avait énormément de mouvements dans les rues. Tous les Libanais étaient descendus dans les rues pour manifester contre la corruption du gouvernement. Mais en même temps, c'était vraiment ce qui était, je pense, représentatif aussi du Liban. C'est-à-dire que même parmi ces manifestations, il y avait toujours un esprit de fête aussi et de rassemblement et de positivité. Quand je suis revenu en octobre dernier, c'était pas du tout la même ville que j'ai vue. Même si c'était 2 mois après les explosions, les rues étaient encore remplies de détritus à certains moments. Très peu d'appartements avaient pu être réparés, rénovés, parce que c'était très compliqué. C'est les citoyens qui ont dû eux-mêmes prendre en charge le nettoyage des décombres, etc. Il y avait encore plein de choses différentes dans les rues et des vitres encore cassées. J'ai vraiment vu aussi un peuple fatigué finalement. La fameuse joie de vivre libanaise, pour le coup, elle était beaucoup moins présente, malheureusement.
Vous avez souhaité documenter ce moment de l'histoire du Liban pour garder une trace de ce Beyrouth dévasté.
Exactement. Moi, ce qui m'intéresse dans le photodocumentaire, c'est la notion de document d'archive aussi, et qui s'apparente aussi à la mémoire collective. Je trouve que c'est très important de pouvoir garder des traces de ce qui s'est passé, même si des fois ça peut être un passé qui peut être un petit peu douloureux. Je pense que c'est des choses qui sont aussi importantes pour se remémorer, qui fait aussi partie de l'histoire. Et c'est pour ça que je trouvais ça important de partir photodocumenter Beyrouth à ce moment-là.
Maxime Maignan, il répondait à Loïc Barrière. Il publie un livre intitulé Beyrouth aux éditions 37.2. Il présente son travail ce mercredi soir à la Galerie Miranda, 21 rue du Château d'Eau à Paris. Les quarts de finale du mondial féminin de handball. Les Bleus affrontent la Suède ce soir à 20h30. Les deux équipes se sont rencontrées deux fois lors des Jeux Olympiques de Tokyo. En phase de poule, elle s'était quittée sur un nul 28-28. La France s'était imposée 29-27 en demi-finale. Les demi-finales de la Coupe arabe des nations avec deux face-à-face ce mercredi. Tunisie, Égypte et Algérie, Qatar. Les vainqueurs de ces deux matchs se retrouveront en finale samedi prochain à 16h. Fin de cette édition. Vous êtes bien sûr Radio Orient. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Joséphine Delpera, déléguée générale de Génération, cofondatrice de l'Observatoire national de l'extrême droite, membre du collectif Nous Toutes, émission présentée par Loïc Barrière. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.